Bonjour à tout le monde. Donc Bernard Escande, je travaille au rectorat de Lyon au sein du service académique d'information et d'orientation dans une mission intitulée « Mission réussite scolaire ». C'est-à-dire relativement ambitieux au niveau du titre. Donc déjà, je remercie l'IFE de m'avoir proposé de participer à ce travail. Je ne suis là pas pour faire une thèse ou quelque chose, disons, de très académique, mais plutôt d'essayer de vous restituer quelques témoignages, quelques aperçus qui sont tout sauf, ils ne peuvent pas couvrir toute la réalité. Donc déjà un premier point autour de la problématique soulevée par la réussite scolaire en lycée professionnel. C'est ce que je pense qu'il y a une multitude de situations, il y a une multitude de pratiques et qu'il y a beaucoup de choses qui sont à prendre en compte par rapport à la réussite scolaire et que c'est vraiment le travail quotidien dans chaque établissement, par chaque acteur qui, de mon point de vue, l'emporte sur beaucoup, disons, de prescriptions de type descendante. Donc je voudrais, par cette première remarque, valoriser tout le travail qui est fait par l'ensemble des acteurs dans les lycées professionnels, dans tous les établissements scolaires, mais là on parle des lycées professionnels. Donc je pense que vraiment c'est quelque chose de très important, qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Et donc c'est vraiment j'aimerais commencer donc mon intervention par valoriser cet engagement permanent et quotidien. Je vous proposerai donc quelques définitions et indicateurs nationaux, deux ou trois diapositives sur le décrochage scolaire et les définitions retenues actuellement, un point plus important sur le programme académique de lutte contre le décrochage, en particulier dans la voie professionnelle, et donc quelques éléments de la politique nationale. Donc, quelques définitions, c'est important. Je ne sais pas si tout le monde a forcément toujours ces définitions qui cadrent, hein, malgré tout, notre activité, donc des niveaux de qualification. Donc je ne vais pas faire particulièrement de commentaires, sauf que tout en bas, vous voyez que les objectifs de la loi d'orientation et de programme 2005 visent 100% d'une classe d'âge au niveau 5, 80% au niveau 4 et 50% au niveau des études supérieures. Donc des indicateurs qui sont extraits de l'état de l'école numéro 21 de novembre 2011, donc de la division des études, des prospectives et peut-être que profession, enfin j'ai oublié, excusez-moi, la déclinaison de la dette puisqu'elle a changé entre-temps. Pour montrer une évolution positive en termes d'accès d'une classe d'âge à un diplôme, donc à l'issue des études secondaires, 69% obtiennent un diplôme en 91 et actuellement on est autour de 83% d'une classe d'âge qui sort de la formation initiale et qui a effectivement un diplôme. Là, je parle des études secondaires, c'est-à-dire les CAP, BEP et les trois bacs obtenus. Le taux d'accès au niveau 4 de formation, donc c'est une autre définition, c'est par rapport à la population, accès aux trois baccalauréats, donc niveau 4. Donc vous voyez les comparaisons entre 80-81 et 2010-2011. Avec en particulier, bien entendu, le poids nouveau dans le système éducatif que représentent les bacheliers professionnels. Hein, donc en une trentaine d'années, on est passé de 0 à presque 24% de bacheliers qui sont des bacheliers professionnels. Tous ces éléments sont dans l'état de l'école, donc il n'y a pas de. C'est assez facile à regarder de plus près. Donc je voulais juste vous attirer l'attention en montrant que la voie professionnelle, de ce point de vue, est une voie de réussite et qui a largement contribué à l'évolution positive de l'accès des jeunes Français au niveau 4 de formation. Toujours dans quelques indicateurs, 17% des jeunes d'une classe d'âge, c'est-à-dire environ 121 000 sur 701 000 qui sortent chaque année du système de formation initiale, scolaire et universitaire. Donc 17% sont sans diplôme du second cycle secondaire. Donc ni CAP, ni BEP, ni bac, quel que soit le baccalauréat. Autre élément très important, parmi les, ça c'est l'observation à un temps donné, les 15-24 ans, ceux qui n'ont aucun diplôme, 44% d'entre eux n'ont pas d'emploi. Donc ça c'est photographie à un instant T. Et la même photographie, mais 4 années après leur sortie de l'école, 49% des jeunes sans diplôme ont un emploi. Donc 51% qui n'ont aucun diplôme, 4 ans après leur sortie, restent sans emploi ou ont eu des petits épisodes. C'est pour montrer l'importance que représente le diplôme encore et toujours, malgré ce que l'on peut soit penser les uns ou les autres, ou soit entendre. Le diplôme reste en France un élément très important d'accès à la citoyenneté, au sens général du terme, et à l'emploi en particulier. Et vous avez donc quelque chose de plus qualitatif. Donc parmi ceux qui ont effectivement un emploi en 2007, ceux qui ont un contrat à durée indéterminée. Donc sur l'ensemble des diplômés, donc 60% d'entre eux ont un contrat à durée indéterminée, hein, donc sur l'ensemble des diplômés. Ceux qui sont diplômés des études supérieures, 72% bénéficient d'un CDI. Ceux qui ont un CAP, BEP, et d'ailleurs les bacs professionnels, c'est le même pourcentage, 54%, alors que les non-diplômés qui ont un emploi, seulement 37% d'entre eux ont bénéficié d'un CDI. Donc c'est pour montrer que non seulement il y a une discrimination par rapport à l'accès à l'emploi, mais la qualité de l'emploi, ça semble tomber sous le sens, mais est plus défavorable pour ceux qui n'ont aucun diplôme. Je vais un peu rapidement, c'est toujours difficile de s'adapter à un public où on ne connaît pas exactement les niveaux, disons, de là où vous vous situez et quelles sont vos pratiques. Mais donc sur le décrochage scolaire, il y a deux points qui semblent clairs au niveau national. C'est d'une part ce que l'on appelle l'action préventive qui est menée dans les établissements de formation initiale. Et il s'agit là de faire réussir le mieux possible et le plus possible les élèves. Et puis une action qui est sur laquelle il y a eu un coup de projecteur depuis 2 ans, c'est l'action concertée interinstitutionnelle qui vise le repérage et l'accompagnement de ceux qui ont effectivement quitté un établissement de formation initiale et autour desquels il y a une forte mobilisation dont je parlerai un peu plus tard. Alors, la définition du jeune décrocheur qui est actuellement retenue et celle que vous avez devant vous. Donc, ça concerne les jeunes de plus de 16 ans, sortis du système scolaire et non inscrits en apprentissage, n'ayant pas obtenu le niveau de qualification défini par le décret du 31 décembre. Il s'agit donc, en clair, les jeunes qui n'ont ni le CAP, ni le BEP, ni le bac professionnel, et donc avec 4 critères complémentaires. Une remarque, en France, on a parlé depuis les années 60 des non-qualifiés. Et alors que là, maintenant, on parle des non-diplômés. Les non-qualifiés, ce sont ceux qui n'ont pas atteint les niveaux de formation que j'ai présentés tout à l'heure, qu'ils aient ou non le diplôme. Hein, c'est-à-dire qu'un jeune est considéré dans notre système, disons, de représentation qualifié à partir du moment qualifié de niveau 4 à partir du moment où il a atteint la terminale de niveau 4, donc bac professionnel, bac technologique ou bac général, qu'il ait obtenu ou qu'il n'ait pas obtenu le diplôme. Là, dans le cadre de l'Union européenne et de l'année 2000, La définition du décrocheur, elle est harmonisée, et donc il s'agit de tout jeune non diplômé. Donc forcément, ça fait varier le nombre. En gros, entre 40 et 60 000 de non qualifiés, on passe à 120, 140, 180 000, et toute la difficulté aujourd'hui, c'est de mieux repérer effectivement. De faire la distinction entre ceux qui sont non diplômés, ceux qui sont non qualifiés et ceux qui sont sans aucune poursuite de formation ou d'emploi. Donc très rapidement, l'Académie de Lyon, trois départements, donc la Loire, le Rhône et l'Ain, avec donc actuellement sur les 257 000 élèves dans le secondaire, environ 32 000 qui sont inscrits dans la voie professionnelle. Et donc se rajoutent 20 450 apprentis. Des données un peu plus précises sur la situation des élèves inscrits dans la voie professionnelle dans l'académie. Vous avez donc en première ligne le nombre d'élèves selon le niveau d'études. Alors on n'arrive pas à 32 000 parce qu'il y a des mentions complémentaires. Enfin, il y a d'autres dispositifs qui sont comptabilisés dans la voie professionnelle. Donc je n'ai relevé que ceux qui sont inscrits dans un parcours de CAP, BEP ou de bac professionnel. Environ, c'est difficile à évaluer, on évalue à peu près 3 000 élèves qui soit quittent entre la première année et l'année terminale ou dans l'année terminale. Donc voilà à peu près les indicateurs dont on dispose au niveau de l'académie pour essayer, disons, de quantifier le nombre d'élèves qui ne vont pas au bout de leur cursus alors qu'ils l'ont démarré dans la voie professionnelle. Tous ces 3000 élèves ne sont pas forcément sans aucune solution ou situation d'emploi. Ça, c'est encore un autre travail qui est à faire et qui se met en place grâce aux plateformes d'appui et de suivi des décrocheurs. Donc ça vous donne à peu près une idée. Donc globalement, on peut dire 10% des élèves donc abandonnent. Selon les spécialités, etc., vous voyez, entre 15 et 20% peuvent être concernés. Alors, en 2007-2008, à partir d'un travail assez exhaustif qui a été mené à la fois par les IUN de l'enseignement technique et moi-même et ma collègue, on a rencontré pratiquement tous les lycées professionnels. Et on a essayé déjà de repérer ce qui se faisait dans les lycées professionnels et quels étaient un peu les points d'appui que les équipes utilisaient pour mener à bien leur mission. Donc en résumé, on rappelle un peu des notions. Donc tout établissement scolaire, et en particulier les lycées professionnels, donc, doivent assurer une prise en charge adaptée des élèves dès leur accueil dans l'établissement, tout au long de leur parcours de formation et jusqu'à un an après leur sortie de l'école, qui est inscrit dans la loi d'orientation et de 89 et de 2005. Il s'agit également de sensibiliser chaque acteur de l'école sur l'enjeu du décrochage et de mobiliser sa responsabilité. Tout ça pour dire que tout acteur, quel qu'il soit dans l'établissement scolaire, a une part, disons, de responsabilité et d'action qui peut contribuer à la réussite des élèves. Et donc, renforcer la collaboration entre tous ces acteurs en impliquant prioritairement les équipes pédagogiques afin de favoriser la personnalisation des parcours. Ce qui était constaté à l'époque, donc 2008-2009, c'est que à partir du moment où des élèves étaient identifiés, je mets des guillemets, comme décrocheurs ou en risque de décrochage, le plus souvent, cette identification donnait lieu à quelque part un transfert de responsabilité. Je pèse mes mots, j'essaye de ne pas stigmatiser, vers les personnels de direction, les personnels de la vie scolaire, les personnels infirmiers, conseillers d'orientation, etc. Ce qui ne veut pas dire que les enseignants ne sont pas concernés. Ne me méprenez pas du tout sur ce. Mais dans le constat globalement, c'est quand même qu'il y avait, quand il y avait, à un moment donné, l'activité en classe ou dans les en formation posant des difficultés, il y a un moment donné où on faisait appel à des personnels, on va dire, extérieurs à la classe. Et donc toute l'évolution qui a lieu depuis, c'est justement de mieux articuler et de mieux, repérer les différents acteurs, y compris, et je dirais surtout, les personnels enseignants, parce que ce sont eux qui ont les élèves quotidiennement et le plus longtemps possible, théoriquement, hein, puisque l'emploi du temps des élèves est autour d'une trentaine d'heures par semaine devant des enseignants. Donc des leviers d'action sont observés. Donc trois types de publics sont concernés par ces actions. Les élèves eux-mêmes, bien entendu. Il y a des actions en direction des familles et puis des actions de formation et d'information qui concernent les équipes éducatives elles-mêmes. Avec trois thématiques qui se dégagent. D'une part, l'importance de l'information. Et donc ça soulève le problème des représentations. C'est-à-dire que les collégiens et leurs familles, quelles représentations elles ont sur leur poursuite d'études, sur la voie professionnelle en particulier. Et pendant la formation, l'information est également très importante pour que les élèves qui sont dans la voie professionnelle aient une représentation ou des représentations les plus justes possibles sur les possibilités que leur offre la voie professionnelle en termes soit de poursuite d'études ou d'emploi. Et c'est mobilisateur. Les équipes disent que plus un jeune est en capacité de visionner ou de visualiser un peu son propre avenir, plus il a des chances de s'accrocher au parcours qui lui est proposé au moment où il est dans l'établissement scolaire. Donc c'est un élément, tout ce qui tourne autour de l'information est une thématique importante. Il y a un moment clé que relèvent les équipes, c'est tout le travail qui est fait au moment où les élèves arrivent dans le lycée professionnel. Le moment étant plus ou moins long, il y a des établissements qui organisent des périodes, on va dire, d'accueil qui peuvent durer de 4 à 6 semaines, où il y a toute une élaboration qui vise la cohésion de groupe, qui vise la connaissance mutuelle des élèves, mais des élèves et des équipes, qui vise la connaissance des filières, des débouchés potentiels, des exigences de la formation. Donc il y a pas mal d'activités qui sont menées autour de ce moment clé et qui, là je ne fais que le reflet de ce que l'on a entendu, qui semble très important pour l'accrochage en formation. Et que des élèves, si on répond trop rapidement à des élèves qui, dès leur arrivée, disent « oui, moi, ça m'intéresse pas, j'ai été orienté alors que je voulais pas », etc., que si on ne prend pas trop vite au mot cette parole, mais si on travaille sur « ben, on va travailler, on est ensemble, on a des activités de production, d'éveil et d'expression ensemble », souvent cette parole d'élève qui est peut-être abrupte, et elle, pour une part, elle disparaît et l'élève, effectivement, il s'accroche mieux ou plus facilement à ce qui lui est proposé formellement dans la formation. Et bien entendu, l'accompagnement en formation de l'élève, donc ça c'est un peu le cœur du sujet, hein, puisqu'il s'agit entre autres de l'accompagnement personnalisé et donc de l'évolution de l'offre de formation dans la voie professionnelle. Un petit peu pour schématiser, pour représenter ce qui participe à la réussite de l'élève, il y a l'école elle-même, comment elle fonctionne, ce qu'elle a à proposer, comment elle s'adapte aux différents publics. Il y a la société, les valeurs de la société, sa situation, la situation socio-économique, les représentations de la société sur les filières, la réussite, ce que l'on attend de l'école. Il y a l'élève lui-même, bien entendu, il est concerné également, ce qu'il est capable de développer, ses capacités, ses difficultés, ses atouts, ses faiblesses. Et bien entendu, il y a aussi son entourage familial, ses amis, son environnement sportif ou autre. Donc c'est pour un peu schématiser l'ensemble des facteurs qui interviennent dans la réussite de l'élève. Et l'école est un des éléments. un élément important, mais il n'est pas seul. Là, on va rentrer dans trois diapos qui expriment quelques exemples d'actions que les équipes mènent en direction des élèves. Donc j'ai déjà un peu parlé des actions d'information et de communication, les actions d'accueil en début de formation. Il y a aussi toute une organisation d'actions de veille, de repérage et de suivi avec différents types de modalités d'organisation. Et puis, bien entendu, tout ce qui concerne des éléments plus individualisés, donc de soutien disciplinaire, d'accompagnement personnalisé, de tutorat entre pairs, entre élèves et adultes de l'établissement, de parrainage, mentorat, avec parfois des interventions de partenaires extérieurs. Donc, encore un point sur la qualité de l'accueil en début de formation. Et puis la capacité à prendre en compte l'élève dans sa globalité. Hein, ce sont des éléments qui ressortent assez fréquemment donc de ce que l'on a pu relever dans les établissements. Quelques actions en direction des familles, avec plus d'interrogations que de certitudes. C'est vrai qu'un lycée professionnel, la zone disons, de recrutement est beaucoup plus large que les communes, la commune où se trouve l'établissement, ou même que les communes limitrophes. Par exemple, il y a un bassin Lyon-Sud-Est où à peine 40% des élèves qui sont dans les lycées professionnels de ce bassin sont originaires de la cinquantaine de communes relevant du bassin. Donc les contacts avec les familles, forcément, ne se posent pas de la même manière. Par exemple, hein, donc il y a aussi des situations objectives. Par contre, il y a des stratégies. On essaye de mettre en place des stratégies pour favoriser le lien avec les familles. Et une des stratégies, c'est surtout d'éviter que l'on aille vers les parents, vers les familles, uniquement sur un registre où on met un peu les difficultés qu'a les élèves ou leurs enfants. Parce qu'à ce moment-là, peut-être qu'ils viendront une fois, mais c'est pas très habile, je dirais, comme moyen de communication. Donc là aussi, il y a des réflexions autour d'ateliers, de production, de journées ou de demi-journées banalisées, où on essaye de faire venir les parents dans l'établissement pour mieux connaître l'établissement et de rencontrer de manière générale les équipes et les élèves. Et donc ça permet ensuite d'avoir des relations plus directes et plus personnalisées avec les parents. Bien sûr, il y a toute une série d'actions en direction des équipes, dont des actions de formation sur un certain nombre de registres. Et puis également, tout ce qui a trait à la communication avec les collèges, avec les équipes de collège et avec les équipes de lycée. Donc là, on est sur l'enjeu des représentations. Et donc, il y a pas mal de PLP qui disent que de leurs collègues de collège que ce serait bien qu'ils connaissent un peu mieux les exigences des différentes formations pour que leur accompagnement quand les élèves sont en collège soit un peu plus adapté à la réalité des formations, et non seulement des formations mais ensuite des possibilités disons d'insertion professionnelle, puisque c'est un des moments importants pour permettre aux élèves de se déterminer. Là aussi, il y a des demi-journées, des journées par bassin, d'échanges, de forums qui sont plus ciblés inter-équipe. Donc, quelques commentaires. Les enseignants affirment la nécessité de prendre en compte les besoins particuliers des élèves. Donc là aussi, d'avoir des stratégies d'écoute. Il y a des établissements qui ont des lieux d'écoute qui sont banalisés, qui sont ouverts, où il y a différents types de personnel qui viennent. Et donc ça permet aux élèves de venir, de parler de ce qu'ils veulent, et de fil en aiguille, ça crée une ambiance dans l'établissement scolaire d'accueil, de convivialité, de prise en compte de la parole de l'élève. Et donc tout cela participe à l'accrochage en formation. Donc des équipes estiment qu'il faut travailler autrement, savoir sortir du champ disciplinaire. Donc ça, c'est une expression d'enseignant. Tout à l'heure, donc Sabine parlait de mieux investir aussi des dispositifs existants. Alors il y en a peut-être certains qui sont pratiquement abandonnés aujourd'hui. Et donc la nécessité de favoriser les rencontres entre les équipes de collège et de lycée professionnel, donc autour de la connaissance des métiers et des formations. Dans l'Académie de Lyon, depuis 3 ans, on a mis en place un cahier des charges qui concerne la cellule de veille, d'accueil et de suivi. Donc un cahier des charges qui a été diffusé à l'ensemble des collèges, lycées et lycées professionnels, et où c'est une proposition d'organisation que l'on demande à chaque établissement de mettre en place. Il s'agit donc cette cellule de veille, donc pour faire quoi ? Donc repérer, pour qualifier donc ce qui est en cause dans le parcours de l'élève ou dans sa situation qui pose difficulté, afin de pouvoir préconiser des typologies de réponses les plus adaptées, les plus fines, et ensuite de prendre en charge l'élève dans le cadre des activités qui sont menées dans l'établissement scolaire. Ce que l'on avait remarqué donc en 2008-2009, c'est que assez rapidement, quand un repérage était effectué au sein même des établissements, il y avait une sorte de préconisation directe vers une solution ou vers une prise en charge sans qu'il y ait forcément un travail suffisamment étayé sur la qualification de ce qui était en cause et sur aussi la préconisation. Et donc souvent c'était une ou deux personnes qui se retrouvaient un petit peu à être des personnes ressources dans les établissements scolaires et à un peu être un régulateur de ce type de difficultés. Et alors que le cahier des charges de la cellule de veille propose que toutes les composantes de l'établissement soient parties prenantes dans la cellule de veille, y compris bien entendu les représentants des personnels enseignants, puisque on ne peut pas parler de difficultés ou de décrochage ou de rupture sans que la parole de l'enseignant et le point de vue de l'enseignant soient pris en compte. Donc l'idée de la cellule de veille, c'est de réunir 8, 10, 12 personnes qui représentent un peu les différents types d'acteurs et donc de compétences pour analyser un certain nombre de situations d'élèves et donc de travailler ensemble pour définir ce que l'on peut faire et quelle est la prochaine étape qui serait la plus intéressante à faire franchir à l'élève et comment on s'y prend. Donc il y a des établissements qui ont une expertise, je dirais, sur ce moyen de fonctionnement et qui arrivent à limiter, d'une part, le nombre de décrochages en cours d'année, mais aussi à favoriser la poursuite de formation, même si parfois c'est une réorientation. Mais globalement, le travail des cellules de veille est considéré comme étant positif par les établissements qui arrivent à s'organiser. Alors les conditions de mise en œuvre, bien entendu, il y a du pilotage, toujours. Donc ça concerne plus particulièrement les personnels de direction et aussi en général les personnels de la vie scolaire. Une implication et une concertation de tous les acteurs. Une identification et une mobilisation, disons, des différentes ressources existantes, soit au sein de l'établissement, parfois au sein d'un bassin de formation. Définition, élaboration et mise en œuvre d'un plan d'action par rapport aux élèves qui ont été repérés. Et puis aussi, bien entendu, accompagnement et formation des acteurs. Et donc, mise en place des relais et travail en partenariat, puisqu'il arrive, évidemment, qu'on soit dans les cellules de veille, accompagnent vers une sortie. Et vers une sortie la plus positif possible et donc en articulation avec le partenariat local. À titre disons d'exemple, il y a des ressources académiques, il y en a beaucoup plus. J'ai pas mis l'IFE, mais il y a une multitude. C'est-à-dire dès qu'on commence à regarder ce qui existe dans une académie, ce qui existe dans une région, ce qui existe au niveau national, il y a en fait énormément de ressources potentielles. Entre autres, la mission école-entreprise, c'est particulièrement important pour la voie professionnelle puisqu'il s'agit de travailler avec le milieu professionnel. Le centre Michel Delay qui, dans l'académie de Lyon, doit avoir une vingtaine d'années, je crois, hein, si je suis pas de Lyon, alors je suis pas, mais et donc est un centre de ressources très important. le CARDI, bien entendu, qui est la déclinaison nationale et qui, là aussi, développe toute une animation, un accompagnement des équipes, plus particulièrement sur des pratiques pédagogiques. Pour illustrer quelques actions partenariales, donc on a 5 lycées professionnels qui font intervenir des étudiants qui sont, comment dire, recrutés en quelque sorte par la FEV pour soit accompagner hors temps scolaire des élèves de la voie professionnelle ou soit dans des actions collectives. Donc là, il y a une convention, tout est établi avec les équipes des établissements scolaires. Il y a un projet expérimentation en cours qui concerne la réussite dans le parcours bac pro BTS. Et donc il s'agit là, d'une part, de faire réussir les jeunes, souvent filles bachelières, qui sont dans ces formations tertiaires administratives, d'une part, de leur donner le maximum de possibilités pour réussir le bac professionnel et, compte tenu de l'emploi dans ces domaines-là, d'aller un peu plus loin, donc de leur donner une ambition de poursuite d'études en BTS. Et donc, il y a un travail entre les lycées professionnels et les lycées sous forme de pôle de formation, et ce qui permet aussi aux équipes de travailler ensemble et de créer une sorte de filière, enfin, pas une filière, mais une filiation et qui facilite le succès des élèves de bac pro en BTS. Le plan régional de raccrochage, donc Johan Pignon va intervenir en début d'après-midi, donc j'en dis pas plus. Et puis il y a une organisation territoriale dans l'Académie de Lyon avec un découpage en zones territoriales emploi-formation qui permet d'établir un diagnostic local et de favoriser une élaboration de la carte des formations qui soit la plus ajustée possible et en particulier qui tienne compte des difficultés de jeunes qui sortent de formation sans diplôme et donc de proposer des modalités d'accompagnement adaptées. Je crois que j'ai dû dépasser le temps. De toute manière, le diaporama sera à votre disposition. Donc, pour rappeler, c'est ce que je disais tout à l'heure, la mise en place de plateformes donc de suivi et d'appui aux décrocheurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, juste pour dire que dans l'Académie de Lyon, le recteur et le préfet de région, ainsi que les préfets départementaux et les inspecteurs d'académie, les directeurs d'académie, donc ont mis en place un principe, c'est-à-dire que sur chacun des bassins de formation, il y en a 12 dans l'académie, ont été nommés 2 co-animateurs, un représentant l'éducation nationale et un représentant un partenaire autre que l'éducation nationale. Donc chaque plateforme est animée par ses co-animateurs et donc organise le travail local autour de l'accompagnement et le repérage donc des jeunes, pour le coup, qui ont quitté un établissement de formation, que ce soit l'éducation nationale, l'agriculture, scolaire ou apprentissage, privé ou public. Donc c'est un dispositif ambitieux. Un schéma pour terminer. Hop, je vais aller un peu plus vite. Donc globalement, l'articulation entre des actions de prévention du décrochage scolaire, donc au sein des établissements scolaires et au sein des bassins de formation, entre autres avec donc les cellules de veille de chaque établissement et la collaboration CIO-MGI. Ensuite, la mission des plateformes de suivi et d'appui aux jeunes décrochés, donc autour d'un partenariat élargi, donc toujours les établissements de formation, mission locale, autres partenaires et les parents. Donc il s'agit là de repérer et d'accompagner les jeunes effectivement décrochés. Et le troisième, disons, niveau, c'est effectivement d'utiliser tout ce qu'on appelle les actions de droit commun pour offrir une chance de raccrochage aux jeunes concernés. Si je peux juste terminer en relevant que la voie professionnelle rencontre, on va dire, quelques difficultés. Entre autres parce qu'elle est parfois considérée comme une voie d'orientation par défaut, donc il y a une sorte d'échelle de valeur. Aussi parce que compte tenu de la situation nationale et de l'emploi, c'est souvent la voie professionnelle qui est mise en cause par rapport à la relation entre la formation et l'emploi. Mais d'un autre côté, je pense qu'il y a beaucoup d'atouts. La voie professionnelle possède beaucoup d'atouts parce que d'une part, elle pratique l'alternance et pour les élèves et pour les enseignants. Donc il y a une ouverture sur le monde, non seulement du travail, mais une ouverture culturelle générale qui est facteur de réussite et de promotion pour les élèves. Il y a des pratiques pédagogiques qui sont basées sur les compétences des élèves et c'est un atout aussi de mobilisation, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement de donner des notes par rapport à un programme prédéfini, mais de tout le découpage des référentiels donne des opportunités pour les enseignants de valoriser les acquis et essayer un peu de limiter l'écart entre le niveau de performance et les exigences des référentiels. Il y a une pratique de personnalisation des parcours, donc ce sont des atouts de la voie professionnelle. Donc ce qui permet de vous engager, de nous engager, dans la poursuite du travail qui est mis en place, en particulier dans la prise en compte globale de la situation des élèves et non pas uniquement leurs résultats scolaires à proprement dit, et puis aussi de continuer d'améliorer le travail collectif et concerté des équipes, puisque c'est aussi une réalité dans les lycées professionnels. Donc ce sont des atouts qui permettent de dire que la voie professionnelle est là tout à fait une place importante par rapport à la réussite des élèves. Merci beaucoup.